Direct en jeu à la Radio Insolite, on se dirige vers le 19e siècle, vers une époque où nous n'étions pas nés, mais où il y avait déjà des talents qui s'exprimaient. Et là, alors attention, c'est Claire, enfin c'est Claire, oui, on va pas le faire comme, comme juste Leblanc. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, tu n'es pas n'importe qui quand même, attention. Claire Galloplace, tu navigues dans le monde entier, dans toute la planète, et tu fais des choses assez extraordinaires. Alors, pour commencer, on va être un peu basique. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Ben, je m'appelle Claire Galloplace et je suis musicienne concertiste. Je joue de la harpe. J'ai un parcours au départ assez typique, conservatoire. J'ai commencé dans le Nord et puis à Paris et puis j'ai fait mes études aux États-Unis. Et puis après, j'ai passé des concours internationaux comme les musiciens solistes. Mais depuis que j'ai commencé ma carrière en solo, j'étais toute jeune, j'avais 15 ans, j'ai toujours eu cette envie de défendre le répertoire solo de la harpe. Parce que la harpe, c'est un instrument qui est tout au fond de l'orchestre, qui joue une note toutes les 242 mesures, qu'on n'entend pas, qui est plus visuel que sonore, on va dire. Et c'est très frustrant. Alors, je suis de parti pris, mais pour moi, c'est l'harpe qui a l'harpe, c'est un instrument qui a énormément de choses à dire, qui a une grande palette sonore, qui a des tas d'émotions à partager. Donc, j'ai envie de le partager aussi.
D'accord. Moi, j'ai trois questions à te poser. Est-ce que tu me permets? Alors, première question. Est-ce que tu es sûr que on va t'entendre?
Voilà quelqu'un qui est déjà venu à mon spectacle. C'est une question qu'on me pose sans cesse. Il y a cette image de la harpe. Je pense qu'on a un peu une image, encore une fois, une image visuelle, l'image d'Épinal avec les petits anges qui gratouillent gentiment cet instrument à cordes, alors que c'est un instrument qui a du coffre. Quand j'habitais Paris et que j'avais des voisins, souvent ils pensaient que c'était du piano. Donc on a de la puissance de feu, oui. Donc on va m'entendre et c'est vrai que c'est j'ai souvent affaire à cette question-là.
D'accord. Deuxième question, toujours intelligente. Hein. Vraiment, il y a assez de répertoire à l'art pour tenir un concert d'une heure et demie en soliste?
Bon, c'est la tu les alignes. Hein. C'est la deuxième question à laquelle j'ai droit souvent. Encore une fois, on a cette image des petits glissando. Enfin, ceci dit, c'est vrai qu'à l'opéra, dès qu'il y a l'apparition de la moindre déesse, fée, etc., zling, 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 petit glissando de harpe. Donc, on s'imagine que c'est un peu tout ce qu'on sait dire dans la vie. Et effectivement, 1h30 de harpe, ça peut faire peur à certains. Mais il y a énormément de répertoire. Alors, moi, j'aime bien les transcriptions. J'aime bien... En fait, quand c'est la musique que j'aime et que j'ai envie de partager, eh ben, je la transcris pour harpe. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une transcription du dernier Rückertlieder de Mahler. Attention, c'est en allemand. Ich bin der Welt am Handeln gekommen, qui est pour orchestre et voix mezzo-soprano. Et j'étais tellement amoureuse de cette musique que je l'ai transcrit pour voix et harpe. Et en fait, ça marche super bien. Et puis, je travaille avec des compositeurs contemporains pour élargir le répertoire de l'instrument. Mais moi, j'espère avoir assez d'une vie pour faire le tour de tout ce que j'aimerais jouer, déjà. Donc oui, on a de quoi jouer.
Allez, la dernière, c'est carrément la meilleure. 1h30, rien que de la harpe, le public ne va pas s'ennuyer?
Alors celle-là, j'essaie de répondre avec un grand sourire, c'est pas toujours facile. Et je me dis que ça fait partie de mon métier, que d'être pédagogique. C'est un problème que j'ai souvent... alors c'est vrai que c'est pas très politique de dire ça, que j'ai souvent avec les programmateurs en fait, qui pareil ont pas forcément idée de ce que c'est que la harpe solo. En plus c'est un petit peu passé de mode l'instrument solo, mais on oublie que la harpe c'est un instrument harmonique comme le piano finalement. Et moi depuis que je fais des concerts en soliste, les gens sont debout, les gens sont contents, les gens ont appris des choses. Maintenant faut pas oublier aussi qu'on joue on joue pas que pour soi, et quand on joue un instrument qui est pas très entendu, on joue vraiment pour un public. Donc je pense que dans le choix des répertoires, il faut un petit peu mixer des choses où le public va s'y retrouver, des choses déjà entendues, où il va pouvoir appréhender juste le son de l'harpe, et puis des choses un petit peu plus baston, un petit peu plus 20e siècle, un petit peu plus hors norme. Et en fait, moi, je constate que les gens se laissent toujours prendre par la main pour venir explorer des musiques où si on leur avait dit sur le papier, ça n'aurait peut-être pas marché sur une affiche, mais ça marche dans la salle, comme quoi.
D'accord. Alors, je tiens à préciser aux auditeurs que les questions ne sont pas de moi. C'est ce que vous trouvez quand vous allez sur le site internet de Claire Galloplace. Dans la biographie, ce sont les questions qui sont toujours les mêmes. Et surtout, comment dire, c'est vrai que voilà, ça permet justement de parler de l'instrument, de parler de tout ça. Alors, on revient à une interview naturelle et normale. La question est toute bête, elle est toute basique. C'est quoi une harpe concrètement ?
Concrètement, c'est un instrument à cordes, donc qui a une forme vaguement triangulaire. On dit que ce sont des cordes pincées parce qu'on les prend directement avec le doigt, pas comme le piano par exemple, qui sont des cordes frappées. Les cordes, c'est comme les touches blanches du piano. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, bécart. Là où ça se corse, c'est que pour faire les altérations, les dièses, les bémols, on a aussi des pédales. Donc on a une pédale de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a 7 pédales dans une harpe. Et comme on ne peut pas mettre la pédale en même temps qu'on est en train de jouer, les pieds sont en avance d'une mesure et en retard d'une mesure sur ce que jouent les doigts. Donc il ne faut pas se perdre. C'est un instrument qui a l'air angélique comme ça, mais... on me dit souvent que c'est un peu une vision démoniaque du paradis.
D'accord. Ce qui est assez extraordinaire, moi je trouve personnellement, quand même, que le son est complètement différent. C'est un son qui est pur.
Oui, mais je suis peut-être de parti pris quand je dis ça. on a la chance d'agir directement sur la corde. Donc il y a quelque chose effectivement d'extrêmement, moi je trouve, sensuel, charnel. On a l'impression à la harpe de modeler, de sculpter son son, parce qu'il n'y a pas de médium, il n'y a pas d'archet, il n'y a pas de touche, il n'y a pas de marteau. Il y a vraiment la corde, le doigt, la harpe, la harpiste, et puis on y va.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer cet instrument ? Parce que c'est pas très traditionnel quand même.
Non, c'est pas très traditionnel, mais ma maman m'a emmené voir un concert de harpe quand j'étais toute petite parce que une amie de ma sœur y jouait de la flûte. Ma sœur avait été assez traumatisée par une professeure de piano, on va dire pudiquement à l'ancienne. Et ma mère a vu le professeur de harpe. Elle a dit, oh là là, moi chérie, pourquoi tu ferais pas de la harpe ? Et alors moi, j'ai vu l'instrument, j'ai dit oui, tout de suite. Ma mère s'est rendue compte de la taille, du prix, du côté peut-être pas forcément pratique de la chose, et elle m'a dit, mais tu sais, le violon c'est bien, la flûte c'est encore mieux, ça se coupe en trois. Et non, moi une fois que j'étais partie, et ce premier professeur s'appelle Annie Desmarais, et c'est quelqu'un que j'appelle toujours maman musique, et je pense qu'il nous a donné à beaucoup le goût des choses un petit peu hors normes. Et ça a été une passion très très rapidement, et à 13 ans, je refusais de partir en vacances si les parents n'emmenaient pas la harpe. Voilà, j'ai eu des parents très très patients, j'ai eu des parents extraordinaires.
Excuse-moi, je vais être un peu basique, mais ça prend un peu de la place une harpe traditionnellement.
Ça prend un peu de la place, ça prend un peu de la place. Alors malgré tout, pareil, quand j'ai commencé ma carrière à 15 ans et qu'il a fallu acheter un instrument digne de ce nom, ma mère m'a dit, mais ma chérie, on ne peut pas acheter la harpe et la voiture, donc on achète la harpe. Et puis on va parier qu'elle rentre dans ma Twingo.
Ah oui,
bah. Et voilà, elle a réussi son pari, on a sillonné la France entière dans la Twingo. Moi, à l'arrière, je devais sortir par le coffre avec mes robes à foufou parce que j'avais 15 ans et que voilà, la comtesse de Ségur n'était pas très loin dans mes lectures du soir. Et ça m'a donné des choses à raconter finalement. Toutes ces aventures, ça a donné la base de... Enfin, ça a nourri le spectacle, vous avez dit, romantique.
D'accord, ok. Alors justement, le spectacle a un nom assez sympathique qui donne envie de venir faire un tour. Il s'appelle « Vous avez dit romantique ».
Ouais. C'est-à-dire que moi, à la base, le romantisme, ce n'était pas ma période. Alors, comme en plus, on a tendance à toujours associer la harpe avec le romantisme, ou alors dire « Ah, c'est tellement romantique !» et on se trompe un petit peu. Parce que la période romantique, c'est trash en fait. C'est alcool, sexe, drogue, c'est, ah oui, c'est l'artiste maudit, c'est les grandes folies.
Non, c'est le romantisme quand même.
Comment dire, Robert Schumann n'était pas franchement bien bien tout seul dans sa tête, pour
D'accord.
dire les choses poliment. John Keats était quand même un accro de la fumette, donc si, c'est quand même une bande de méchants garçons, et méchantes filles d'ailleurs. Donc c'est pas du tout l'image doucereuse qu'on peut en avoir. Et moi, il se trouve que j'ai les cheveux très longs. Je suis blonde avec des cheveux très longs jusqu'à la taille. Donc je colle vraiment à l'idée qu'on se fait de la harpiste et romantique. Moi, mon terrain de prédilection, c'était plutôt le XXe siècle. Et puis un jour, on m'a offert une carte blanche, le théâtre de Cambrai. Et puis, j'ai proposé un concert solo, comme d'habitude, et on m'a dit, tu crois pas que les gens vont s'ennuyer? Et, pardon. Et j'ai dit, bon, ok, je viens avec des amis. Et j'ai pas précisé lesquels. Ça a marché jusqu'à 2 jours avant le spectacle. On m'a dit, mais ta fiche technique, là, combien faut de micro? Tu n'étais pas seule, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai quand même un peu avoué que les amis en question, c'était Schubert, Schumann, Paganini. Et je me suis dit, eh ben, on y va. On va expliquer ce qu'est le romantisme, tous ensemble, moi, ma harpe, et puis les compositeurs de cette époque-là. Donc l'idée, c'est que c'est un dialogue avec Franz Schubert. Mais il est trop timide, donc il veut pas monter sur scène. Et puis les époux Schumann, mais ils ont des problèmes de couple, donc ils veulent pas monter sur scène. Et puis Paganini, mais bon, lui il a la grosse tête, donc il veut pas venir non plus. Et donc je me trouve toute seule à parler à tous ces gens-là, on va dire dans les coulisses, et puis à parler au public aussi, et puis essayer de faire le lien entre ces gens d'il y a 150 ans qui sont aussi les gens avec qui je le passe le plus clair de mon temps dans la journée quand je travaille mes partitions. Et voilà, je crois que je me vois souvent comme une passerelle. Et ce spectacle, c'était ça à la fois sur la période romantique, les compositeurs, et puis l'instrument lui-même, et ce que c'est que la carrière d'une jeune femme qui trimballe un instrument qui pèse un âne mort.
Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça n'est pas que de la musique, il y a aussi toute une partie comptée. Qui rend encore plus riche le spectacle.
Oui, c'est moitié-moitié texte, moitié-moitié théâtre et musique. Pile.
D'accord.
À la minute près.
Avec une inspiration particulière ou... Parce que je suppose que dans tout le répertoire, il t'a fallu faire des choix.
Oh là là, oui. Alors le spectacle, à la base, faisait 3 heures et donc il a bien fallu faire des choix. Bon, c'est bien, peut-être ça fera soit un numéro 2, soit un livre, je ne sais pas encore. Mais tout est vrai. Ce que je dis toujours, c'est que tout ce que je dis dans le spectacle est vrai. Toutes les anecdotes qui me concernent, toutes les anecdotes qui concernent les compositeurs, tout a eu lieu. Il y a une seule fake news, c'est que mon mari n'a pas mal au dos.
J'aime beaucoup.
Mais ça, faut aller voir le spectacle pour comprendre ce que je veux dire.
D'accord, ok. Question personnelle, j'ai le droit?
Oui.
C'est vrai que tu avais envisagé de te faire tatouer Beethoven Forever?
Non.
Ah ben, je sais pas.
Non, non. Non, non, ça c'était... C'était dans un accès de rage, mais purée, qu'est-ce que je fais pour qu'on comprenne que c'est pas un instrument doucereux, gentil, mielleux. Je pouvais sortir un tas de gros mots.
Non,
bon, je le fais un peu dans le spectacle, il y en a 2-3. Donc quand je joue devant des enfants, je suis toujours un peu embêtée, mais en fait, ils en connaissent beaucoup plus que moi, donc ça va. Bon, il y a un moment, je simule un orgasme quand même dans le spectacle.
Ah oui, c'est...
Ouais.
C'est un univers assez insolite, là, quand même.
Bah, quand il s'agit de peindre une époque, eh ben, il faut tout peindre.
D'accord. Bon, pourquoi pas, c'est pas interdit. Ça va être ton premier Avignon?
Ah non, Avignon, je l'ai fait l'année dernière, avec la version courte. Là, je fais 4 dates à Paris, au Théâtre de la Boussole, tous les mardis du mois de mai, donc le 7, le 14, le 21, le 28. Je ne fais pas Avignon cette année. Je le ferai l'année prochaine. L'année prochaine, je viens même avec 2 spectacles, à vrai dire. Un que j'ai écrit, où je ne joue pas, et vous avez dit romantique en version longue.
D'accord. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir d'Avignon 2023?
Oh, waouh!
Wow,
alors
ça,
une
c'est,
ah,
réponse,
wow.
Là. Ah, là, c'est
ah une découverte. Moi, je suis pas du milieu du théâtre. Hein. J'avais jamais fait de théâtre avant ça. Et mon rêve à moi, c'est plutôt Carnegie Hall, en fait. Le
Excusez-moi du
Festival
peu.
d'Avignon.
Oui.
Oui, mais non, mais si on rêve, autant rêver grand,
Ah
sinon.
bah totalement, oui, pas de problème.
Ce que je veux dire, c'est que Avignon, ça faisait pas partie des fantasmes que je pouvais avoir ou de choses dans lesquelles je pouvais me projeter comme étant une forme de réussite. J'ai fait Avignon parce que je me suis dit à un moment que, eh ben, il fallait faire Avignon pour pouvoir faire avancer mon spectacle. Et j'y allais même un peu à reculons au départ, parce que j'avais l'impression que ça allait être la foire d'empoigne et que j'étais pas certaine d'y avoir ma place non plus, avec mon instrument, moitié musique, moitié théâtre. Et puis avec cette sensation de pas être de ce milieu-là, du milieu des théâtreux. Et bon, j'étais dans un super théâtre qui était le Théâtre des Vents, qui est très éclectique et qui a un super accueil avec des gens formidables. Donc bon, déjà, je partais avec une bonne base. Et puis, il y a cette expérience extraordinaire de voir des gens qui sont là de 9h du matin jusqu'à 23h pour bouffer de la culture du matin au soir. Et ça, en tant qu'artiste, ça fait énormément de bien. Parce que quand on joue parfois, qu'on défend des spectacles au début, on doit toujours se battre un petit peu. On a l'impression qu'on est un peu entre soi, on va voir les pièces des uns des autres pour s'aider, parce qu'on sait que les premières, elles sont difficiles, on a du mal à faire venir le monde. Et des fois, on déprime un petit peu en se disant, ben, il n'y a que les musiciens qui viennent voir les concerts, il n'y a que les théâtreux qui viennent voir les spectacles, et c'est un peu déprimant. Et alors, à Avignon, déjà, il y a de voir tout ce public complètement mordu, aficionados, qui vient depuis des années, qui a un genre de professionnalisme, en fait, du spectateur. Et ça, c'était hyper boostant. À Avignon, j'ai vu des choses bien, j'ai vu des choses pas bien du tout. J'ai vu des choses extraordinaires, j'ai vu des choses qui m'ont donné plein d'idées. Il y a une émulation, on a 10 idées à la seconde quand on traverse la ville et qu'on voit des affiches, qu'on entre dans une salle pour voir un truc, on se dit, ah, mais ce projet que j'avais peut-être tourné comme ça. Enfin, c'était très intense.
D'accord. Théâtre de la Boussole, le 7, 14, 21, 28 mai à 19h30. Ça, c'est à Paris.
Oui.
On risque de te voir ailleurs, en province peut-être?
Alors, j'ai pas mes dates sous les yeux. Ouh là là.
C'est pas grave.
Là
Le
là
meilleur
là, je
moyen,
l'ai
c'est
pas
d'aller
préparé.
de tout est
Sur le
indiqué sur le
site, oui.
site internet. Ouais, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a un site internet direct qui s'appelle Claire Gallo Place. Et là, vous avez toutes les infos. Vous découvrez justement le personnage que représente Claire, que je trouve assez original et assez sympathique là-dessus. Je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour répondre à toutes mes questions. Et
Merci
puis,
à toi.
surtout, bah, bonne santé, parce que je crois que c'est le plus important en ce moment pour toi.
Oui, effectivement.
Merci à toi.
Pardon, mille pardons. Merci beaucoup. Bonne journée.